Libérer et refonder la France, 1943-1945, un podcast dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation.
Saint-Eustache est une petite commune se situant à quelques kilomètres d'Annecy, sur les versants de la montagne du Semnon. En apparence tranquille, ce hameau a été victime d'une tragédie sans nom le 31 décembre 1943.
Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Michel Germain, historien spécialiste de la Haute-Savoie, et de Guy Pégatoké, ancien maire du village et fils de déportés. Nous avons aussi rencontré des enfants témoins de l'arrestation de leur père le 31 décembre 1943, Roger Brunet et Anne-Marie Cotard. Pour finir, nous avons échangé avec Jocelyne Martinet et Yves Métral, membres de l'association départementale FNDIRP.
Michel Germain, comment était la Haute-Savoie durant la guerre ?
Lorsque l'armistice est signé en juin 1940, la Haute-Savoie n'a pas d'occupation ennemie. Ça veut dire que nous sommes dans ce qu'on appelle la zone sud. Il y a une longue période qui va jusqu'au mois de novembre 1942, où s'installe le régime de Vichy. C'était un régime qui était liberticide, xénophobe, antisémite et antidémocratique. En novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Hitler donne immédiatement l'ordre d'occuper la zone sud. Donc nous, on ne voit pas arriver des Allemands ici, on voit arriver des Italiens. Il y a deux dates qu'il faut retenir. Le 31 janvier 1943, création de la milice française. Et puis ensuite, le 15 jours plus tard, la création du STO. Alors c'est intéressant le STO, parce que ça va forcer les jeunes de 18, 19, 20 ans à prendre position. Ou tu vas travailler en Allemagne, ou tu te planques, on appelait ça les réfractaires. Et donc on va voir arriver, les chiffres c'est toujours très difficile, mais environ 5 à 6 000 jeunes qui vont venir se cacher chez nous. Ce ne sont pas des maquisards, ce sont des réfractaires. Les populations rurales sont à remercier énormément parce qu'elles les ont tous pris en charge. Sur le plan alimentation, vêtements, ils ont été pris sur le plan, on va dire, d'organisation militaire, politique, etc., par les associations.
Comment s'organise la résistance en Haute-Savoie ?
À la fin de l'année 42, on voit apparaître des mouvements politiques, je viens de le dire, mais aussi des formations paramilitaires. Ce n'est pas des soldats, ce n'est pas encore vraiment des maquisards parce qu'ils attendent des armes. Et les armes, elles vont arriver par le ciel. La Haute-Savoie est le département français qui a reçu le plus de parachutages. Nous avons reçu en Haute-Savoie 45 parachutages. Le 8 septembre 1943, l'Italie capitule devant les armées alliées qui étaient en train de remonter depuis l'Afrique et qui étaient au sud de l'Italie. À ce moment-là, on voit arriver en Haute-Savoie les Allemands. Alors quand on dit les Allemands, il y a les soldats, mais s'il n'y avait plus que les soldats, ça n'aurait pas été bien grave. Mais il y avait les SS, il y avait la Gestapo, enfin bref, il y avait du monde. Et là, il y a une répression violente. Et plus les Allemands répriment, plus la résistance rétorque. Au milieu de ça, vous avez les glières, mais je tiens à dire quand même, les glières, oui, mais il n'y a pas que les glières, hein, il y a tout le reste. C'est le premier combat de la résistance, on va dire, plus ou moins à ciel ouvert, quoi. C'est pour ça que c'est devenu symbolique. Alors, en ce qui concerne cette période, la Haute-Savoie va être le seul département français qui a été mis en état de siège par le gouvernement français. Le gouvernement de l'État français, c'est plus la République. Hein. L'état de siège, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de bouger une oreille. Et on va envoyer en Haute-Savoie plus de 2500 forces du maintien de l'ordre, policiers, miliciens et GMR. Cette période est extrêmement violente. Et finalement, le 11 août, les résistants reçoivent l'ordre d'Alger, où se situe le général de Gaulle et la France libre, de passer au combat. Et c'est les combats de la libération qui durent une grosse semaine et qui font 69 morts et 3866 prisonniers allemands.
Nous sommes aux côtés de Guy, Roger et Anne-Marie, respectivement âgés de 7, 4 et 10 ans au moment des faits. Que s'est-il passé le 22 décembre 1943 ?
Trois soldats allemands, dont un commandant et un interprète, en quête de ravitaillement dans les fermes et fruitières à Saint-Eustache et à la chapelle Saint-Maurice, rencontre au lieu dit La Vraie un groupe de maquis du plateau des Glières, appelé Corps Franc Simon, venu ce jour-là pour chercher des munitions cachées auparavant au hameau d'Entre-deux-Onces. Les maquisards du Corps Franc occupés à déjeuner chez le meunier y sont arrivés vers 13h environ. Ils sont rentrés dans la cuisine, ils ont procédé à un bref contrôle d'identité et une demande de renseignement au propriétaire du moulin pour un accès à la cabine téléphonique, situé dans son bureau au fond du couloir. Le chef des maquisards sentant les choses se compliquer, réagit rapidement en tirant avec son revolver l'interprète qui les tenait en reste avec son arme et blessa mortellement le deuxième qui n'était pas arrivé encore au téléphone. Ensuite, les maquisards ont tué le commandant qui attendait dans la voiture parce qu'il y avait tellement de neige qu'ils n'ont pas osé descendre avec la voiture. Après, les maquisards ont cherché à faire disparaître le véhicule et les corps, mais les ont abandonnés quelques kilomètres en avant, au-dessus du village de Monché. 8 jours d'anxiété ont suivi.
Le 22 décembre, à l'école de Saint-Juriot, l'instituteur nous a dit de rentrer chez nous. On est parti avant l'heure. Il fallait faire 3,7 km pour entrer à l'école. Le lendemain, le vendredi, après l'affrontement du moulin, l'instituteur a dit « Je ne sais pas si je reste ou si je prends le maquis ». On a croisé des camions allemands qui descendaient par Montier après la messe vers 10h le 31 décembre.
Le 31 décembre 1943 a été pour nous un jour marqué pour l'histoire de notre commune. Au petit matin, avant le lever du jour, des vrombissements de camions se faisaient entendre sur les routes de Saint-Juriot, sur la route conduisant au col de l'Échaud et de la chapelle Saint-Maurice, transportant les troupes pour encercler plusieurs hameaux, dont la fruitière où il était facile de ramasser les hommes qui livraient le lait de leur élevage. Les autres furent pris dans leurs fermes, comme mon père ou le père à Roger, rassemblés au chef-lieu face au bassin Lavoir, où l'un d'eux y fut trempé. Ils brûlèrent une maison et un corps de ferme. Le commandement était assuré par la Gestapo, qui résidait à Saint-Juriot. Après avoir pillé dans les fermes, les maisons, volé argent, bijoux, bétail, porc et fromage, ils embarquèrent une trentaine d'hommes. Le soir même, 4 hommes ont eu la chance d'être relâchés pour des raisons diverses. Le 2 janvier 1944, nos hommes furent conduits à la gare d'Annecy et embarqués par le train, internés à Compiègne, où 2 des nôtres y sont morts. Ils sont embarqués le 20 janvier 1944 pour l'Allemagne. Entre Bar-le-Duc et Trèves, à la suite d'une évasion, ils sont forcés de se dévêtir et de monter nus dans un wagon sur de la chaux vive.
Nos gardiens passèrent le long du train, voyant le wagon ouvert, tirèrent des coups de revolver. Il y eut 3 blessés dans notre wagon, ils nous firent déshabiller et changer de wagon. Où il y avait de la chaux sous les pieds, nous avons roulé 12 heures tout nus au mois de janvier. La deuxième nuit fut atroce, avec la chaux qui nous séchait la bouche, la soif c'est plus terrible que la faim.
Conduit ensuite à Buchenwald, camp bien organisé avec ses 4 fours crématoires. 6 sont dirigés sur Montausen, 10 sur Flossenbourg et les autres dans les commandos de Buchenwald. 17 plus les 3 Italiens sont morts martyrisés de torture, d'épuisement, brûlés à Gardenne-les-Gênes. 7 sont rentrés. Parmi les déportés décédés, 4 seulement sont revenus, dont 2 dans une urne contenant leurs cendres. Brûlé à Prague.
Roger, quel souvenir gardez-vous de ce 31 décembre 1943 ?
Ils ont tapé à la porte et le papa était encore couché. Ils nous ont tous fait lever, ils nous ont mis, mon frère, ma sœur et moi, ma mère, avec un fusil mitrailleur devant la porte, à 20 mètres, avec le bonhomme couché prêt à tirer, hein, vous ne risquez pas de nous sauver. Et là, mon père s'est habillé, ils l'ont pris, ils l'ont foutu un coup de crosse parce qu'il voulait revenir embrasser ma mère. Et il est parti comme ça, on ne l'a jamais revu. Bon, ils ne sont pas arrivés avec des sucres d'orge. Hein.
Et vous, Anne-Marie ?
Mes parents, ils ont vu arriver les camions. Ma maman, elle est venue nous dire, venez, levez-vous vite, il y a plein d'Allemands partout. On est encerclés. Alors on s'est levé et puis on était tous dans la cuisine. Il y a une équipe d'Allemands qui sont arrivés, qui sont rentrés. Ils sont restés le temps qu'ils auraient pu mettre pour piller, mais on est tombé sur une bonne équipe qui n'était pas méchante, on peut dire. Et après, ils ont dit à mon papa, ben, prenez vos papiers, on vous emmène. Alors, nous, on s'est mis à pleurer, on a eu peur. Alors, l'Allemand, il dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est uniquement pour... une vérification de papier. Après, il va revenir. Il est parti, mais on ne l'a jamais revu.
Comment le village a vécu la suite de cet événement ?
La commune a végété pendant quand même quelques années. 24 hommes, c'est des familles qui ne se sont pas développées. Voilà, on a tous travaillaient à la ferme pour faire vivre la commune, mais ça ne s'est pas développé pendant quelques années. Les enfants de les orphelins étaient en âge de s'établir, et bien c'est là que le village a commencé à revivre.
Concrètement, c'était quoi l'entraide au sein du village ? Vous parlez d'entraide entre vous.
C'était s'aider à travailler, parce qu'il y avait beaucoup de travail et il n'y avait plus de bras.
Ça a changé les esprits. Les esprits, c'était des esprits fraternels, d'amitié, qu'on ne trouvait pas ailleurs.
Est-ce que vous avez ressenti de la haine ou de la rancœur ?
Oui, c'est tout ce que je peux dire, oui.
Je vais quand même dire quelque chose sur la haine. C'est que moi, avant d'aller en Allemagne, j'avais une haine, je n'ai pas peur de dire, formidable pour les Allemands, les Boches, comme on les appelait. Eh bien, en revenant d'Allemagne, j'ai bien réfléchi. Parce qu'on a vu beaucoup de monuments allemands, Guy, tu peux le dire,
oui,
dans les camps. Tout ce qui n'était pas d'accord avec lui, c'était par terre. Parce que c'est pour eux, c'était des traîtres. On les écorchait vivants pour faire des abat-jours.
Ah ben, ceux qui avaient des tatouages, oui. Ben, Roger, il a rencontré le maire là-bas où il y avait son père. Ouais. Ça l'a réconforté un peu. Hein, mais bon, c'était dur quand même. Il savait que son père avait passé là pendant une année. Mais on sentait que les Allemands, ils se sentaient gênés aussi. Hein.
Parce qu'il ne faut pas dire que c'est tous des nazis, c'est pas vrai.
Non.
C'est pas vrai. Non. Dans une guerre, il y a des bons et des méchants. Et puis des méchants, il y en aura toujours.
Est-ce que vous avez parlé de cette histoire à vos enfants ou à vos petits-enfants ?
Eh bien, à mes enfants, je n'ai jamais pu en parler parce que j'avais trop mal. Mais j'ai commencé à en parler à mes petits-enfants. Et maintenant, ils aiment savoir des détails que je peux leur donner. Mais plutôt, non, je ne pouvais pas.
Et comment vous avez trouvé le courage de vous confier à vos petits-enfants ?
Ben, ça vient naturellement, qu'en seul moment, 80 ans après, comme c'est difficile d'en parler, alors sur le coup, ben, ce n'est pas possible. Mais malgré tout, comme on a été bien entouré, ça nous a aidé à vivre. Fallait continuer de vivre, hein. On n'a pas pu faire d'études, on a travaillé à la ferme.
Comment vous avez fait pour vous reconstruire après tout ça ?
Il faut aller de l'avant, et on n'a pas le choix. Et puis, comme j'ai dit, j'avais une maman formidable, une femme courageuse, exceptionnelle. Et elle allait de l'avant et elle nous a entraînés. On a manqué de rien, à part papa qui n'était plus là. On a eu une jeunesse comme tout le monde. Mais il manquait toujours quelqu'un.
Est-ce que vous avez besoin d'une aide psychologique ou est-ce que vous aurez aimé avoir une aide psychologique ?
Non, ça ne se faisait pas à l'époque. Et puis avec la force de caractère, eh bien, ça fait le reste. L'envie d'arriver, l'envie de vivre, l'envie de continuer. Voilà, notre remède, ça a été ça. Hein. Vous avez de la chance de ne pas être dans un pays où il y a de la guerre en ce moment. Vous ne pouvez pas savoir. Ne pas avoir peur de la guerre. Moi, j'ai eu peur de la guerre tout le temps de ma vie.
Même quand elle était finie ?
Il a fallu un temps pour s'adapter quand même.
Dès qu'il y avait un conflit à quelque part, mais j'en tremblais.
Avez-vous un dernier mot pour nous ?
Surtout remercier tous ces jeunes qui sont
oui,
là.
Toute cette jeunesse qui s'intéresse à ce qui s'est passé. C'est super. Et puis, garder une confiance dans la vie. Parce que la vie, elle est belle quand même.
Nous sommes à présent avec Jocelyne et Yves, membres de la FNDIRP.
La Fédération des déportés s'est créée en octobre 1945, quelques mois après le retour des déportés. Les déportés sont rentrés en France dans le plus parfait dénuement, après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, à partir du 8 mai 1945.
Le 5 mai 1945, à 5h de l'après-midi, les Américains nous ont délivrés. Ils sont rentrés avec 4 automitrailleuses dans les camps. Nos gardiens étaient partis avant leur arrivée. Pour nous, c'était la joie. Nous pleurions de joie de nous savoir libres, mais malheureusement, beaucoup moururent les derniers temps du typhus. Il n'y avait point de médicaments pour nous soigner, pour guérir la dysenterie. J'ai mangé plein ma gamelle de charbon de bois. Au bout de 15 jours, nous fûmes rapatriés par avion. Nous étions heureux de revoir la France. Nous étions très maigres, je pesais 48 kilos.
La France était en pleine reconstruction. Elle était libre depuis déjà presque 9 mois, puisque la France s'est libérée en août 1944, alors que la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie date du 8 mai 1945. Lorsque les déportés sont rentrés, ils ont connu une certaine indifférence et rien n'avait été prévu pour leur réinsertion.
Mon père, je sais qu'il a mis plusieurs années à trouver sa voie parce qu'il fallait qu'il se reconstruise. Quand il vous regardait, vous aviez l'impression qu'il regardait derrière. On lui avait appris à ne pas regarder en face les SS. Il ne fallait pas, sinon tu étais directement fusillé sur place. Les déportés avaient besoin de se restructurer. Ils faisaient appel entre eux. Il y a aussi un autre point indispensable pour se restructurer, c'est le conjoint. Je ne dis pas forcément l'épouse. Là, en l'occurrence, c'était une femme, c'était ma mère, qui a permis à mon père de se restructurer. Comme disait Jocelyne, beaucoup de déportés, au retour, sont morts des suites ou se sont suicidés. Quand on est traumatisé, on a les amis, les associations qui comprennent et le conjoint. Donc gardez en mémoire que même dans une période extrêmement traumatisante, si l'on arrive à ressortir, à l'exprimer face à des gens de confiance, on peut peut-être s'en sortir.
Comment est née l'association ?
Ce sont deux déportés issus du camp de Buchenwald, deux résistants qui ont mené la résistance au sein même du camp de Buchenwald, qui ont créé la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes. Elle avait un triple rôle, c'est-à-dire permettre aux anciens déportés de se reconstruire physiquement. Ils sont tous revenus avec des séquelles très importantes qu'il fallait soigner. À l'époque, la sécurité sociale n'existait pratiquement pas, elle en était à ses balbutiements. Parce qu'avant la guerre de 39-40, il n'y avait pas de sécurité sociale. Si vous n'aviez pas les moyens de vous soigner, vous ne pouviez pas vous soigner. Donc, les déportés ne pouvaient pas se soigner parce qu'on pouvait bénéficier de la sécurité sociale si on travaillait. Ils n'avaient pas de travail et ils ne pouvaient pas travailler en raison de leurs conditions physiques. Donc, la FNDRP a ouvert un premier dispensaire à Paris où il y avait beaucoup de médecins, des médecins bénévoles, et la plupart étaient des médecins anciens déportés. C'est très important parce qu'il n'y avait pas non plus de cellules psychologiques à l'époque. Personne n'écoutait les déportés. Et puis, personne ne comprenait effectivement ce qu'ils avaient vécu. Et lorsqu'ils allaient à Paris se faire soigner, ils avaient en face d'eux des médecins qui avaient connu la déportation et ils ont pu parler. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se reconstruire et à se réinsérer dans la vie civile. En plus, parmi les jeunes déportés, il y avait des jeunes qui ont été arrêtés à 15, 16, 17 et 18 ans, qui n'avaient aucune formation professionnelle. Et la FNDRP leur a permis de suivre un cursus scolaire et d'apprendre un métier. Ce qui a permis donc à la plupart des déportés qui ont réussi à surmonter leurs séquelles, beaucoup sont morts des suites de la déportation, beaucoup aussi se sont suicidés, et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de suicides parmi les déportés qui sont revenus des camps. Et notre devoir, c'est de transmettre cette mémoire pour que ça ne se reproduise pas.
Libérer et refonder.
Alors, j'ai eu le privilège d'être avec vous à Saint-Eustache fin janvier. J'ai eu le plaisir de retourner voir les témoins. Et donc, je reviens avec un message. On a été extrêmement surpris par votre préparation. On tenait à féliciter à la fois les élèves et les professeurs dans la façon dont vous avez abordé le sujet, à la fois avec vos questions pertinentes, avec la concentration dans laquelle vous étiez tous et avec le respect que vous aviez auprès de ces témoins qui étaient très émus pour revenir sur ces sujets. Eux ont vraiment eu la sensation d'avoir fait leur devoir de mémoire et ils transmettaient auprès de vous cette histoire. Mais déjà là, ils se sentent vraiment soulagés d'avoir pu exprimer tout ce qu'ils ont pu exprimer.
Imaginez que tout ça recommence.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce podcast et qui ont su partager avec nous leur histoire avec émotion. Merci à la mairie de Saint-Eustache de nous avoir ouvert ses portes pour réaliser nos interviews, à nos professeurs pour nous avoir accompagnés, à nos deux camarades qui ont joué de la musique et à Bonlieu Scène Nationale pour nous avoir soutenus dans la création du podcast.